Zeraldiak ondoio psikologikoak dutu jenten gainen eta hoi hastengia ipatzen. Emili Nobili psikologuak bilan bat eman daiku lehen zeraldien ondoioetaz mintzatu gia. Zuik aipatzen zuni bi publiko desberdin ikusitu zula zeraldiaz geho, jiten zue kabinetilat, alde batetik pertsona zunbait jadanik nekezia psikologikoak zutienak, eta bestalde jente zunbait deskubritu diena be lagungoa behar zela edo ahulezi zunbait bazutiela, esplikatzen ahalde ikusia hoiko, desberdin tarzuna.
Oui, tout à fait. Alors déjà, il est fondamental de rappeler que la vulnérabilité fait partie de l'être humain. La fragilité, c'est quoi? C'est quand finalement, la vulnérabilité, elle devient trop importante. C'est-à-dire que le degré de stress devient trop important, qu'on a une durée d'exposition à des conditions difficiles qui s'ancrent dans le temps et des conséquences qui sont beaucoup plus négatives que les bénéfices qu'on peut tirer de cette situation. Donc finalement, la fragilité psychique, elle ne concerne pas tout le monde. Voilà. Donc on distingue effectivement ces deux groupes. Dans les personnes qui étaient déjà fragiles psychiquement, on retrouve des personnes qui souffraient donc déjà de troubles psychiques ou de pathologies mentales, chez lesquelles on a pu remarquer parfois une accentuation des symptômes ou des difficultés accrues dans le lien social, puisque finalement elles ont parfois perdu le contact avec des associations de soutien, des professionnels qui les accompagnaient au quotidien, même si la plupart des associations et des soignants ont essayé de poursuivre l'accompagnement et les soins dans les unités spécialisées notamment. Mais voilà, ça n'a pas été possible pour tout le monde et certains accompagnements qui se faisaient au domicile notamment ont été réduits, voire absents pendant une certaine période. On a remarqué également des hospitalisations plus importantes. Alors, contrairement à ce qu'on imaginait, on pensait qu'on aurait des décompensations suicidaires plutôt, puisqu'on était sur deux périodes sensibles, l'entrée donc, la sortie de l'hiver et l'entrée dans le printemps pour le premier confinement, et à l'heure actuelle, donc sortie d'automne, entrée dans l'hiver, qui sont deux périodes sensibles en général chez les personnes fragiles. Et en fait, finalement, on s'est aperçu que c'était beaucoup des syndromes anxieux et dépressifs majorés qu'on a retrouvés dans les cabinets et dans les unités de prise en charge. On a également des personnes qui souffraient de phobie sociale ou d'hypersensibilité. Donc la phobie sociale, ce sont ces personnes qui ont tendance à éviter les autres par peur, par crainte d'être attaquées ou parce qu'ils ne savent pas comment communiquer, comment faire. Et les personnes hypersensibles sont des personnes qui sont plutôt qui ont plutôt tendance à imbiber, à prendre les émotions négatives des autres ou des ambiances dans certains lieux, dans certaines situations. Et donc ces personnes, finalement, ça leur a permis dans un premier temps une forme d'apaisement puisqu'elles n'étaient plus au contact des autres, donc ça les a soulagées. Mais parallèlement, l'effet un petit peu négatif, c'est que tout le travail psychothérapeutique qui était mené justement pour cibler le travail du lien social a été empêché, a été arrêté, et donc on les a retrouvés avec beaucoup de sentiments d'impuissance, de dévalorisation, une perte d'élan dans l'investissement qu'ils avaient mis dans ce travail-là, et donc une reprise parfois un peu plus difficile derrière du travail thérapeutique déjà enclenché. Voilà.
Et justement, vous parliez aussi des personnes qui sont isolées.
Oui, tout à fait. Donc, chez les personnes qui vivent seules ou qui sont isolées ou dans une situation de grande précarité, là, le contexte a été aussi difficile, puisque finalement, ça a engendré également beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de l'avenir, mais aussi une mobilisation de leur capacité d'adaptation beaucoup plus importante que chez d'autres sujets dans la population normale, avec des angoisses, des peurs très très importantes, et ce qu'on appelle aussi une forme de désafférentation, c'est-à-dire le manque de stimulation, je pense notamment aux personnes âgées, hein, ou aux personnes alitées chez elles, le manque de contact, le manque de stimulation des sens, ça a entraîné aussi un repli sensoriel, et donc ça peut engendrer, on le sait, hein, au niveau psychique, des conséquences de la dépression, plus avoir envie de s'alimenter, des difficultés à dormir, voilà, ce genre de choses. Et donc ensuite, on a effectivement le cas des personnes chez qui on a vu émerger plutôt des fragilités psychiques au déconfinement, qui n'étaient pas forcément des personnes fragiles avant le confinement, où là, on retrouve effectivement une perte de contact avec l'extérieur, c'est-à-dire avec tous les sas qui leur faisaient du bien d'habitude, les loisirs, le sport, la famille, les repas de famille, rien que ça, par exemple, les dimanches. Une plus grande visibilité aussi des troubles des apprentissages chez les enfants, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui étaient déjà en difficulté et qui, durant le confinement, ont pu montrer ou exacerber certaines difficultés parce qu'ils n'avaient pas l'accompagnement d'une AVS, par exemple, ou les conseils ou les adaptations méthodologiques de l'enseignante. Et puis des parents qui ont été dépassés par les cours ou l'ampleur de la charge de travail. Donc ça a généré beaucoup de tension dans les ambiances familiales avec de la frustration, de la peur, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'échec aussi de la part de certains parents. Et j'ai même vu des burn-out chez les adolescents qui vraiment se sont retrouvés en grosse difficulté face à la charge de travail aussi. Mmh. Donc voilà, les burn-out, on les a eus hein, chez les soignants, chez les professionnels du milieu scolaire, chez des cadres, comme je disais hein, tout à l'heure, comme j'en ai parlé. Mmh. Et on a également eu des conséquences chez des malades qui souffrent de maladies chroniques, de maladies graves. Hein. Moi, j'ai des patients qui voilà, avaient des rendez-vous de prévu, des rendez-vous de contrôle. Ces rendez-vous ont été déplacés, reportés, comme des résultats qu'ils attendaient qui n'ont pas pu être analysés ou décodés de suite par le médecin traitant. Donc voilà, ça a engendré aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisses, notamment des angoisses de mort, hein, quand il y a des enjeux vitaux derrière, et la notion de qu'est-ce qui est prioritaire finalement à l'heure actuelle par rapport au Covid, par rapport à ma santé, l'état dans lequel je suis. Voilà, ça a été très anxiogène pour ces patients-là. Et puis j'ai eu aussi des patients qui malheureusement ont subi des pertes, alors liées ou pas directement au Covid, mais là aussi ça a été des deuils compliqués avec des pertes parfois traumatiques, ils n'ont pas pu voir leurs proches avant le décès, ils n'ont pas pu finalement se préparer psychologiquement à cette perte, entrer dans ce processus de deuil. Et le nombre réduit de personnes aux enterrements, l'impossibilité aussi d'avoir parfois accès à certaines messes. Alors ici, peut-être que le contexte a été un petit peu différent que dans d'autres régions, mais c'est vrai que pour certains croyants, ça a été particulièrement compliqué d'entrer dans ce processus de deuil. Et donc là, on a vu émerger des sentiments de colère, d'injustice, d'incompréhension, un sentiment d'impuissance aussi chez certains patients, avec aussi l'impossibilité de se toucher pour pouvoir réconforter ou être réconforté dans ces moments de perte ses proches, les membres de la famille. Voilà, donc... Et puis on a eu effectivement des craintes autour de la santé chez tout un chacun, hein, même des gens qui n'étaient pas forcément fragiles avant, se sont mis à décoder les sensations, les ressentis de leur corps, à faire attention s'ils avaient des symptômes ou pas. Alors parfois parce qu'ils avaient peur pour leur propre santé, mais aussi parce qu'ils avaient peur de transmettre éventuellement le virus à leurs proches vulnérables. Et là, on a vu émerger de la culpabilité chez certains patients. Culpabilité à aller voir ses proches, culpabilité à sortir parce qu'on avait peur de ramener le virus avec soi. Voilà, donc beaucoup d'anxiété autour finalement de la santé. Et donc chez certains patients aussi l'apparition d'un état d'hypervigilance, d'anticipation, de contrôle, de vérification, de nettoyage aussi. Voilà, beaucoup de nettoyage. Donc finalement des patients qui vivaient dans un état d'anxiété permanent, en alerte, en stress et qui avaient du mal à lâcher prise. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur les pensées positives et le lâcher prise en cabinet. Voilà, entre autres, puisque donc on a d'autres patients qui ont développé aussi hein, plein d'autres troubles, troubles du comportement alimentaire, addiction, notamment l'addiction virtuelle. On a beaucoup joué sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les apéros avec écran interposé. Voilà, donc ça aussi, on a dû le reprendre en cabinet derrière. Et des patients qui ont eu des sevrages forcés par rapport aussi à des addictions qu'ils avaient et une perturbation du cycle veille-sommeil.
Eta bestalde, aipatzen zunen ebai jente zumbait akizi gerri untsa bizitu ziela, zer aldi hoi, berriz denboa hartzeko, pausatzeko.
Tout à fait, des personnes l'ont très très bien vécu. Alors, dans le sens où ça a été un véritable temps de pause pour elle, d'abord un temps pour soi, c'est-à-dire prendre le temps de méditer, de lire, de créer, dessiner, jardiner, bricoler, enfin voilà, des choses qui peuvent faire du bien. Prendre le temps d'une introspection aussi sur soi, de peut-être remettre en perspective certains choix, certaines décisions qu'on avait prises. Et lâcher le stress finalement du quotidien. Donc ce temps a été plutôt bénéfique pour certains patients. Ils ont trouvé des bénéfices finalement à fonctionner autrement. Voilà. Et puis, ils ont aussi pris le temps de récupérer de la fatigue, parce que beaucoup de personnes se sont aperçues qu'elles étaient fatiguées physiquement ou moralement. Et pour d'autres personnes, ça leur a permis de légitimer aussi ces temps de bonne solitude, entre guillemets. Voilà. Celles qui avaient du mal à dire aux autres, j'ai besoin de prendre un temps pour moi, de faire ça. Là, finalement, c'était légitimé par le contexte du confinement. Donc, ça leur allait très, très bien. Et puis, ça a permis aussi des temps passés en famille. Alors, dans les relations parents-enfants, on a vu de très belles choses aussi, hein. Des parents qui ont pu faire des jeux de société, créer des choses ou bricoler avec les enfants, leur transmettre des savoirs, être beaucoup plus disponible aussi aux enfants, et des enfants qui en retour le rendaient très très bien, voilà, qui ont beaucoup apprécié ces temps avec papa et maman à la maison. Donc c'était des chouettes moments, ça c'est vrai. Et des relations fraternelles aussi, où on a vu des temps de jeu, des temps de partage, beaucoup plus que dans le quotidien de l'avant-confinement. Et puis, quand, pour les confinements entre amis, puisqu'il y a eu aussi des confinements entre amis, un lien social renforcé. Ça s'est retrouvé dans le discours des patients. Et puis, ça a été aussi l'occasion de prise de conscience pour beaucoup, de leurs limites, de leurs besoins, de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils ne voulaient plus, que ce soit professionnellement, familialement parlant aussi. Hein, on a eu pas mal de décisions de divorce, notamment, ou de changement de réorientation professionnelle après le confinement. Voilà, donc ce besoin de changement, il s'est acté aussi, que ce soit dans des choix de déplacement géographique, habiter ailleurs, ou tout simplement faire le tri dans les relations aussi aux autres. Ça a été un temps pour soi. Et ça a permis finalement à tout le monde de mobiliser, enfin, en tout cas pour ces personnes qui l'ont bien vécu, de mobiliser des ressources. Ils ont réussi à s'adapter pas trop mal finalement à la situation. Et certains et certaines ont voulu entamer un travail sur elles. Donc voilà, donc j'en ai retrouvé certains qui avaient très bien vécu le confinement, mais qui du fait de tous ces petits changements avaient besoin de poser les choses.
Super, il y a des bonnes nouvelles finalement.
Finalement, il y en a eu.
Bon, merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie, merci.